avant de payer, voilà.
Silencio.
Rule. J'avais dit au café, mais je prends un peu d'avance.
Allez.
Chers émérites et amis des émérites et amis des amis, nous fêtons ce jour la 22e année de notre groupe toujours dynamique.
Oui.
Notre groupe cependant a perdu l'an dernier son père fondateur pour lequel nous avons tout de suite une pensée émue. Vous avez deviné, je veux parler de Francis Dufour dont la bonne humeur, la gentillesse et l'érudition nous font défaut. Aussi tout en félicitant les anciens, toujours fidèles, qui ont droit au titre de Wetterani. Je salue tous les nouveaux, Novi aut Novae, Vel Recantes en latin, ainsi que les sympathisants soucieux de ne pas voir pâlir les pages roses du petit Larousse, dernier rempart de la latinité, comme vous savez. À chaque anniversaire, vous avez remarqué que le magistère se fend d'une oratio, la moins académique possible, avec quelques citations, cicéroniennes ou virgiliennes ou autres. Hic jacet lepus. Hic jacet lepus pour ceux qui aiment la prononciation ancienne. Tiens, voilà une. Bon, le hic en effet, c'est que j'ai bien du mal à trouver du nouveau. Hein. Malgré mon admiration que je partage avec M. Mansuy, pour le très grand écrivain alexandrin que tout le monde connaît, qui s'appelle Nonnos de Panopolis, je ne peux pas lui faire encore un emprunt, c'est trop. Alors, quid novi? Eh bien, armé de courage et d'une lampe électrique, en latin ça dit lux portativa, j'ai trouvé au grenier un livre de souvenirs écrit pendant la guerre par un vieil humaniste déjà bien oublié. Mais vous savez, ça ne vous étonne pas, parce que tous ceux qui me connaissent savent que je passe pour un spécialiste des auteurs perdus sans collier. Cet écrivain a eu pourtant son quart d'heure de gloire, oui, même plus. Il est entré à l'académie, il a été un professeur de lycée et puis ensuite de Cagnes, admirateur de Virgile à qui il a consacré son dernier livre, ni posthume bien sûr. Ah, hélas, il était maurassien par tempérament, et il a eu le malheur d'être louangé par son meilleur élève qui s'appelait Robert Brasillac. Alors ça, c'est grave. Bon. Alors, si vous oubliez ses graves défauts, ben, vous serez charmé par son style, sa curiosité. C'est un grand voyageur, polyglotte, spécialiste du Japon et de Saint-François-Xavier en particulier. Il y a quelqu'un qui serait content de savoir ça. Bon, traducteur de Selma Lagerlöf, c'est pas n'importe qui, donc il connaissait le, je sais pas, le danois, le, je sais pas quoi, Selma Lagerlöf. Suédois. Bon, alors au fait, vous avez tous reconnu, non?
Non.
Ah ben vous brûlez de savoir son nom. Alors vous donnez votre langue au chat?
Oui.
Bien, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle André Belsor.
Connu,
un poète. J'ai des poèmes de lui, là.
Oui, il a été poète, mais c'est surtout un pur républicain laïque, petit-fils d'un tuteur, arrière-petit-fils d'un tuteur, fils de prof, devenu principal de collège, et ce sont d'abord ses années de jeunesse qu'il décrit dans son bouquin, que j'aime beaucoup, entre 1885 et 1895, au collège de Lannion. Ça fait plaisir à certains, hein. Petite cité bretonne, bien calme, c'est pas vrai, où s'affrontaient les cléricaux et les hussards noirs de la République. Puis ensuite, il raconte ses débuts dans l'enseignement, qu'il évoque avec toujours, comme on dit, un brin de nostalgie, un zeste d'humour, tout en y mêlant des réflexions sur la pédagogie, l'autorité, et surtout sur les chahuts. Alors ça vous plaira. Alors, à ce sujet, voici un premier exemple sur la pédagogie. Un des professeurs les plus fameux enseignait la philosophie dans un grand lycée parisien. Pendant son cours, les élèves faisaient du café, et pas beaucoup de philosophie. Bon. Alors on créa pour lui une chaire où il devait apprendre aux étudiants et aux jeunes professeurs à tenir les élèves et à les intéresser.
Ah bon.
Oh, c'est bien vrai ça. Ah, voici un second sur l'autorité. Il arrive que le vrai mérite et la bonté supplée à l'autorité, et que les grands élèves consentent à suivre un maître à cause de sa gentillesse et l'intérêt de son cours. À ma connaissance, le cas s'est produit plusieurs fois. J'avais un vieux collègue dont la classe était voisine de la mienne. Ça se passait à Paris. J'entendais à son entrée une gerbe de clameurs à laquelle succédait un murmure qui pouvait passer pour du silence. J'en eus un jour l'explication. C'était un rite que des générations de cagneux se transmettaient. Tous les élèves debout criaient en cadence. « Bonjour vieillard, comment te portes-tu » Il répondait « Bien, mes enfants !» Tout le monde s'asseyait, Personne n'y manquait à son cours, il était remarquable latiniste, et corrigeait à merveille des thèmes latins. C'est moi qui dresse l'oreille. Hein. Les scientifiques étaient parfois moins bien traités. Je me rappelle un brave homme qui enseignait les mathématiques aux élèves littéraires. En hiver, sa classe était sombre et on était obligé d'allumer dès 3h après-midi. Les élèves avaient trouvé le moyen d'éteindre à volonté. Alors une voix s'élevait dans les ténèbres et disait « Il faut le tuer !» Et le professeur lui s'écrie « Non, messieurs, vous ne ferez pas ça !» Eh bien, pensez-vous que ces émotions lui aient donné une maladie de cœur ? Pas du tout, il s'en allait, la lumière revenue, le port ferme, l'œil est vif et l'air content. Un autre qui enseignait les sciences naturelles racontait à ses élèves une fois par an, toujours à la même époque, sa descente aux gorges du Tarn. Le morceau était classique. D'une année à l'autre, les élèves l'apprenaient par cœur. Dès que le professeur commençait, 25 ou 30 voix l'accompagnaient d'abord en sourdine, puis un peu plus fort, enfin à faire trembler les vitres lorsqu'on arrivait au plus beau passage. Descendu à cette profondeur pour éprouver la sonorité de l'écho, nous prîmes nos cornes et nous soufflâmes dedans. Les fenêtres de la classe étaient ouvertes et la phrase retentissait à travers les cours. Les nouveaux venus étaient surpris. Un hymne, un psaume, qu'est-ce que c'était ? Ils interrogeaient les anciens à la sortie. On leur disait en rigolant « Mais c'est le père Chaminard qui soufflait dans ses cornes !» Le père Chaminard n'a jamais renoncé à sa descente aux gorges du Tarn. Si l'excellent homme vivait encore, il éprouverait toujours la sonorité de l'écho. Bon, ben, je crois que nous sourions un petit peu au récit de Terre Amène du prof de Sciences Nat. On n'a pas eu toujours des si pittoresques, hein. À l'esprit juvénile, aussi à l'esprit juvénile, voire potache, de M. Belsor, digne académicien, qui s'amuse à l'idée, ce sont ses collègues qui se font chahuter. Mais nous serions aussi en pensant que les élèves actuels ne connaîtront jamais l'impérissable folklore lycéen que nous avons connu nous-mêmes, peut-être en moins pittoresque, pas que, hein, dont nous sommes les témoins, un petit peu nostalgiques parfois, bon. Mais je ne voudrais pas insister sur ces portraits d'enseignants qui font penser plus à Topaz qu'à Michel Serres. Hein. Et pour terminer, je souhaite vous laisser une image flatteuse de M. André Belsor, qui fut toujours reconnaissant envers ses premiers professeurs du collège de Lannion, qui fut toujours fidèle à sa découverte à l'âge de 12 ans de l'Antiquité et de l'Ancienne. Ancienne. Alors on va l'écouter. Si peu qu'un élève ait retenu de latin, ce qu'il a de culture n'a gardé quelque chose. Je ne me suis jamais expliqué. Je n'ai jamais pu analyser la raison précise pour laquelle je reconnaissais assez vite ceux qui, un simple bout de chemin, ont tenu Virgile par la frange la plus usée de son manteau. Eh bien, chers émérites, tel Saint-Martin, vous l'avez connu l'an dernier, qui a partagé en deux son manteau, pardon, son paludamentum, je suis prêt à partager avec vous le manteau de Virgile aux franges ou sans franges ou tinam.